Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Et donc, bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus, sur la 90.8. Aujourd'hui, on est sur une expo d'art contemporain avec l'association Les Prodigieuses et donc avec Audrey. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer déjà un peu l'association?
Bien sûr. Donc oui, je suis Audrey Vogel, donc je suis la fondatrice de l'association Les Prodigieuses. C'est un groupe Facebook que j'ai créé il y a 7 ans maintenant. Donc c'est une communauté d'échange et de partage où on n'est que sur du membre femme, donc c'est exclusivement femme, et uniquement du bassin grenoblois, toute l'Isère.
Ok, et donc il y a un espèce d'engagement un peu à vouloir, entre guillemets, à n'accepter que des femmes dans cette association.
Alors il y a deux groupes, il y a les femmes... Et il y a les prodigieux.
Il y a les prodigieux.
Bon, moi, effectivement, je me dois. C'est parti de rien, en fait. Jamais j'aurais pensé que ça prenne une telle ampleur. Mais c'est vraiment, les femmes entre elles sont solidaires, construisent, bâtissent des choses. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à tout cela, en fait.
D'accord. Et en termes d'événements, qu'est-ce que vous faites avec l'association?
Oula, on a beaucoup d'événements. Oui. Moi, ça me tient à cœur, en fait, par mon métier. Donc, je suis réalisatrice d'événements. Dirigeante de Prodigez-vous. Et en fait, mon métier, c'est de coordonner et de donner vie à des projets. Donc du coup, tout au long de l'année, j'accompagne les membres du groupe qui veulent mettre en lumière leurs projets. Donc on a différents salons qui existent depuis un petit moment. Donc on a le marché de Noël qui arrive bientôt, parce que c'est la période. Le salon littéraire et créatif en début d'année prochaine. Le salon du mariage. Et là, notre première avec Virginie pour le salon d'art contemporain, que je trouve juste génial.
Oui, on est dans la Maison des Arts,
oui,
à Montbonneau.
Tout à fait, une salle
donc,
magnifique.
Sur une très très grande salle avec une trentaine, si je ne dis pas de bêtises,
une trentaine d'artistes, oui, absolument, qui a été sélectionnée sur le volet par Virginie, qui vous en parlera mieux que moi d'ailleurs. Parce que
oui, c'est... donc on est sur une expo qui ouvre aujourd'hui.
Aujourd'hui,
il
depuis
me semble.
Matin 10h.
Bon, quand vous entendrez cette émission, c'est un peu tard pour le vernissage, à moins que...
Ah oui.
Vous sachiez vous téléporter.
C'est ce soir que l'on trinque, oui.
Oui, c'est ça.
Mais voilà.
L'expo, elle est dispo jusqu'à dimanche.
Dimanche, absolument. Voilà, donc vendredi, dimanche, 10h, 18h, en non-stop. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Et la restauration sur place.
Ok. Merci beaucoup.
Voilà. Merci à vous.
Oui, c'est un plaisir.
Moi aussi, plaisir partagé. Je passe le relais à Virginie.
Bonjour.
Bonjour Virginie. Donc... toi, il me semble que tu es artiste peintre.
Tout à fait.
Et tu as aussi, tu as collaboré pour la mise en place de toute cette expo.
Voilà, voilà. C'était un peu l'idée de. Donc moi, je suis artiste peintre mélanaise et j'expose depuis quelques années assez régulièrement. Et j'avais envie de réunir des artistes de qualité et de techniques très différentes pour faire une exposition commune. Et voilà. Et après, j'ai rencontré Audrey, qui du coup vous a expliqué que c'était son métier. On a conjugué nos talents, on va dire ça,
vos
pour
deux
réaliser
passions.
Ce salon. Voilà,
okay.
Donc il y a des sculpteurs, des peintres, photographes, plasticiens.
Et c'est tous des gens dont vous connaissiez le travail?
Oui, tout à fait. Alors il y en a certains que je connaissais moins bien, mais j'avais quand même vu leur travail déjà depuis quelques temps, donc voilà. C'était un peu l'idée. Après, ça a été un peu le bouche à oreille aussi. Des artistes qui ont dit « Ah bah oui, moi, ça m'intéresse. » Voilà, mais ça a été très vite... les artistes sont vite manifestés pour être présents.
Et en fait, vous avez... nous, on a fait un petit tour. On a fait un petit tour avant de vous poser des questions.
Oui.
Vous avez beaucoup, beaucoup de techniques différentes sur cette expo.
Voilà.
Est-ce que c'était voulu?
Tout à fait. Oui, c'était voulu. Qu'il y ait à la fois de la peinture à l'huile, de la peinture figurative, abstraite, vous avez de la photo, La sculpture, bah, c'est varié. Il y a du bois, il y a du métal, il y a des épingles, il y a voilà, plein de choses, des sculpteurs, de la terre. Et puis, nous avons un invité d'honneur qui lui propose des magnifiques sculptures de femmes.
Oui.
C'était aussi un clin d'œil à l'association des prodigieuses, avec ces jolies femmes, toutes en céramique et en terre. Donc voilà, lui, il est venu. Il parlera de son travail, d'ailleurs, ce soir pendant le vernissage.
Que vous allez sans doute rater si vous écoutez notre émission, on est désolée. Mais on n'a pas pu la faire plus tôt. Puis c'était plus sympa aussi qu'on vienne là, comme
bien
ça
sûr.
On va aussi voilà, tout passer interviewer quelques artistes.
Exactement,
après.
C'est très bien.
Voilà, comme ça, vous allez avoir une émission un peu mixte, avec plein de capsules sonores ce soir.
Très bien.
Et concernant vous, ce que vous faites en tant qu'artiste, vous peignez depuis quand? Est-ce que c'est une passion?
Oui, au départ, c'était une passion. Je peins depuis une vingtaine d'années, même si avant, quand j'étais étudiante, je faisais déjà pas mal de dessins.
Oui.
Mais la peinture, c'est vraiment depuis 20 ans. Et puis de plus en plus régulièrement avec les expos,
oui,
qui sont aussi presque autant agréables que de peindre. C'est vraiment un échange avec le public, avec d'autres artistes. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable.
Oui,
je comprends. Parler de son travail. Donc moi, je fais de la peinture à l'huile essentiellement. Et avec un côté très figuratif, épuré, minimaliste et un petit côté vintage parfois.
Pour la petite anecdote, Liam qui fait notre technique aujourd'hui, il a vraiment flashé sur vos tableaux.
Ah, merci.
J'ai eu du mal à le décrocher.
Oh, bah, c'est gentil, merci
voilà,
beaucoup.
Pour la petite anecdote.
Rester fixé dessus quoi.
D'accord. Bah,
parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on a que les gens qui nous écoutent de
oui.
faire passer
bien sûr.
Ce que nous on voit. Donc vraiment venez voir de vos propres yeux parce que vous pourrez vous faire votre propre idée parce que nous nos descriptions ne sont pas forcément très objectives je suppose. Voilà. Mais vous êtes satisfaite de ce que vous faites actuellement?
Par rapport à mon travail personnel?
Ouais.
Oh oui, oui, oui. Ça va, oui.
Vous avez, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont ce syndrome.
Oui, oui. Après, c'est vrai qu'il faut toujours être des nouvelles idées. Mais là, j'ai trouvé une orientation qui me plaît assez.
Ok.
Donc voilà, poursuivre avec un côté un peu plus graphique, toujours très coloré, parce que j'aime bien la couleur.
Oui, on a vu ça.
Voilà, c'est un peu l'idée.
On a vu ça. Vous avez des inspirations particulières ou c'est vraiment
J'ai souvent des projets dans la tête.
Ouais.
Donc après, soit je m'inspire de photos que j'ai fait moi-même ou de photos que je trouve ou je fais des montages, beaucoup.
Okay.
Comme le photographe, je prends des petits morceaux puis j'en crée un tableau.
Ok, c'est super.
Voilà.
Donc oui, vous faites comme du montage photo mais
voilà.
Sur tableau.
Oui, exactement. Je
okay.
fais mon dessin et après, voilà, quand mon dessin est bien structuré, je passe à la peinture.
Donc moi, c'est Sylvie Laurent, je suis mosaïste contemporaine depuis 5 ans. Je suis installée à Moirans où j'ai ouvert mon atelier et ma spécialité c'est de travailler donc le ciment, un mélange de ciment sable et de pigments, c'est la base donc de mes tableaux et dans lequel je fais des inclusions ou de pâtes de verre ou de minéraux de toutes sortes ou ma spécialité également ce que j'appelle le pétale d'ardoise. Donc c'est, alors là vous n'avez pas de visuel mais n'hésitez pas à venir voir sur les réseaux hashtag MMAACV, vous aurez toutes mes actualités. Et donc le travail de l'ardoise, je pars d'une ardoise de toiture que je débite en tout petits morceaux et que je viens intégrer dans mes tableaux. Voilà, donc c'est toute une démarche, mes inspirations, c'est l'univers, c'est le métissage, tout ça. Voilà.
Et en fait, comment vous en êtes venu à faire cette mosaïque qui est quand même atypique parce que en fait, quand on est arrivé sur le stand, c'est vrai qu'on a vu que vous étiez, que vous faisiez la mosaïque, mais ça ne saute pas aux yeux, en fait, que vous faites de la mosaïque.
Oui, parce qu'en fait, on a, dans l'idée, quand on parle mosaïque, on a toujours l'idée de la mosaïque antique. Donc la mosaïque est à plat, que vous pouvez retrouver donc, dans les différents sites archéologiques. La mosaïque contemporaine, c'est une mosaïque de relief et de matière. Donc après, tout est possible. Il faut s'interdire de rien. Et voilà, mais c'est généralement, ça c'est l'art, il faut tenter des choses. Et du moment que le résultat nous plaît et qu'on trouve beau, voilà, pour moi c'est de l'art. Et la mosaïque contemporaine, c'est un art pas très connu, mais qui mérite d'être découvert.
Bah, c'est effectivement la première fois que j'en vois.
Bon.
Moi, à titre personnel, je n'avais jamais vu cette façon-là d'aborder la mosaïque.
Et oui.
Donc,
contente que ça vous fasse une découverte.
Comment vous avez découvert ce médium-là ?
Alors, très intéressant. Donc, en 2015, j'avais vu une émission sur la 5, sur France 5, où il présentait le travail d'une mosaïste contemporaine de Paris, Sika Viagbo, qui fait du travail avec du cuir, du bois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est comme ça que je veux m'exprimer. Donc, à la base, je faisais de l'illustration, mais le contact avec la matière, ça a été une révélation. Donc, moi, je ne travaille pas ni le cuir ni le bois, mais par contre, tout ce qui est tout minéraux.
Alors, moi, je suis Cécile Trousse, je suis une artiste chambérienne qui est plutôt attirée par l'océan et la mer, comme vous pouvez le voir, un petit peu moins les montagnes. Ça, c'était il y a longtemps. Et j'aime peindre essentiellement des paysages semi-abstraits actuellement.
D'accord.
Et j'aime beaucoup ajouter de la matière de plus en plus. Un peu du sable.
De la texture sur vos tableaux.
La texture actuellement, oui, je tends vers ça. Voilà.
Mais du coup, vous venez dire la mer, mais on n'est pas vraiment à la mer ici. Vous avez vos inspirations via photo ou
alors,
une fanatique de la mer et vous êtes souvent à la mer?
Il y a des lacs quand même, c'est vrai que le lac d'Aiguebelette, le lac du Bourget et le lac d'Aiguebelette, à chaque fois, on peut avoir des ciels magnifiques.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, je m'inspire beaucoup de ciels, surtout orageux. Voilà, quand le moment est un peu incertain, il y a de la brume, il y a quelques éclaircies, c'est ce qui me touche particulièrement. Et effectivement, quand j'ai l'occasion d'aller au bord de l'océan, la mer, je prends des centaines de photos le matin très tôt, le soir, quand il fait mauvais, quand il fait surtout mauvais d'ailleurs, quand il y a des orages, il y a une lumière qui est incroyable.
Oui, mais vous avez une palette de couleurs qui est assez foncée.
Alors là,
enfin, en tout cas, de ce qu'on voit, des
très bien éclairé.
En face de
Non, après, je suis plus dans les bleus. Ça fait un moment que je suis vraiment dans les bleus-gris, couleurs un peu orage. J'aime beaucoup l'encre de Chine, le noir. Après, maintenant, j'essaie des matières naturelles, couleur terre. Idéalement, j'aimerais utiliser uniquement des pigments naturels, plus par souci écologique, aussi éthique.
Ouais.
Après, là, ça devient compliqué actuellement.
Oui, parce que en fait, c'est un tout nouveau médium. Enfin, ça change complètement le médium.
Oui, et puis là, pour l'instant, je suis obligée d'utiliser un médium acrylique. Du coup, même si j'utilise des produits bruts, sur le plan écologique, c'est pas très intéressant pour l'instant. Mais on va y venir. En tout cas, c'est l'idée.
Petit à petit.
Et voilà. Et ce qui m'attire vraiment principalement, c'est, j'en parle un petit peu là sur l'encart, c'est la philosophie japonaise du wabi-sabi.
Okay.
Où on cherche vraiment l'authenticité et tout ce qui est matériaux bruts qui vieillit. Et je trouve qu'il y a toujours vraiment de la beauté dans des vieilles pierres, le métal qui rouille.
Le temps qui passe.
Voilà, et ça c'est vraiment ce qui m'inspire. Et je collecte toujours, je fais plein de photos. En fait, partout, tout le temps, de ces petits instants-là que je capte au quotidien.
Oui, je peux me présenter, oui. Je m'appelle Jean-Paul Goutenoir. J'ai un parcours, j'ai eu 10 vies dans ma vie. Pas une, 10. Donc j'ai été, pour l'histoire artistique, donc quand j'étais jeune, à 15 ans, j'étais soutien de famille déjà parce que mon père était mort à 32 ans, donc j'avais 4 frères et sœurs derrière moi. Et donc, j'ai fait étalagiste décorateur.
Ok.
Je faisais les vitrines parce qu'on avait pu racheter à la mort de mon père un petit magasin sur un pays qui s'appelle Saint-Bonnet-le-Château. Et donc, je faisais déjà les vitrines pour nous. Et puis après, donc, j'ai pris le métier d'étalagiste décorateur. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et comme je faisais ça la journée, le soir, j'allais au Beaux-Arts de Saint-Étienne à partir de 19h jusqu'à 21h, au cours du soir. Voilà, et puis après, mon patron m'a dit, je m'en vais, il devenait professeur à l'école d'architecture de Saint-Étienne, donc voilà, et puis je me suis retrouvé sans emploi. Et puis comme je bricolais, je jouais au foot à l'Est Saint-Étienne pour les sportifs, comme jeune, et voilà, et donc elle me dit, mais pourquoi tu ne serais pas éducateur? Et je suis devenu éducateur.
Rien à voir avec ce que vous faisiez avant.
Rien à voir avec des enfants, adolescents déficients intellectuels, qui étaient plus vieux que moi, puisque la majorité était à 21 ans, et moi j'étais un des plus jeunes éducateurs en France, j'avais 17 ans pour moi.
Ah ouais.
Et je me suis retrouvé en rentrant, le jour où je suis rentré, avec 16 jeunes plus vieux que moi, et je n'avais jamais fait de l'éducation. Voilà.
Oh, wow.
Donc là, après, j'ai fait ma carrière là-dedans. J'ai fait éducateur spécialisé en cours d'emploi, le diplôme, Bac plus 2. Et puis après, j'ai fait l'École nationale de la santé publique en cours d'emploi, tout en étant directeur d'établissement.
Effectivement.
Voilà. Donc, en fin de carrière, j'avais 3 établissements à gérer.
Oh, wow.
Un à Lens-en-Vercors pour des enfants et adolescents épileptiques. Un à Grenoble avec des trisomiques avec qui on est monté un espace de cirque. Ils ont fait des circassiens qui ont fait des grandes représentations sur Grenoble et des autistes. Et un à Échirolles avec des polyhandicapés.
D'accord.
Voilà. Et donc je me suis éclaté dans mon métier pendant plus de 50 ans. Hein, voilà. Et puis au-delà de ça, j'ai monté beaucoup d'associations en France où j'ai présidé, notamment le Bureau français de l'épilepsie qui s'appelait après Épilepsie France. Et puis le mouvement européen des travailleurs sociaux dont j'étais vice-président, enfin plein de trucs comme ça.
Ouais.
Et j'ai fait un peu de politique puisque j'ai été adjoint au maire sur Lens-en-Vercors pour m'occuper de tout ce qui était culturel, les festivals de films, le machin, les écoles, tout ce qui était social. C'était mon métier, c'était facile
oui.
à faire.
Oui.
Et puis après 2 mandats d'adjoint, j'ai fait une petite interruption parce que trop de travail. Et puis j'ai été maire de Lens-en-Vercors. De 2008 à 2014.
Ah, vous êtes resté un moment.
Oui, voilà, on a fait un gros travail avec mon équipe, parce que j'ai été bien encadré, bien entouré. Et on a fait notamment une salle...
C'est pas grave, c'est les joies du direct.
C'est les joies du direct, il faut couper après. J'ai fait un centre culturel... Un centre culturel qui s'appelle Le Cairn.
Ok.
2000 mètres carrés réservé à la culture. Et c'est un centre culturel qui fonctionne très, très bien. Voilà. Et comme j'avais trop d'ambition pour la commune, je n'ai pas été réélu en 2014.
Ah là là.
Et ça m'a donné l'occasion de me remettre à la peinture.
À la peinture.
Parce que avec tout ce que je faisais, je n'avais pas du tout la tête à faire de la peinture.
Et le donc, temps, juste.
Le temps.
Je suppose.
Et le temps
parce
aussi.
Que, avec tout ce que vous venez de dire...
Eh bien oui, c'était des nuits de 4h30, 5h.
Oh là là.
Pendant des années, c'était
j'aurais
ça.
Jamais pu.
Et voilà. Et donc, du coup, je me suis remis à la peinture en 2014, avec une toile rouge plus violente, parce que j'en avais la niarde contre... Comme je n'avais pas été réélu, voilà.
Ouais.
Et puis, progressivement, je me suis remis à travailler, à peindre. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui, en 2025. Voilà.
Et donc, vous travaillez à l'huile, actuellement ?
Oui, je suis sur des grands formats de 1 mètre sur 1 mètre.
OK.
Donc 1 mètre carré, peinture à l'huile, souvent au couteau, ou avec des spatules même qui servent au plâtrier peinte pour boucher les trous.
Ouais.
Voilà, et je suis avec beaucoup de couleurs.
Oui, il y a beaucoup de textures aussi dans
beaucoup
ce que
textures,
vous faites.
Voilà, et puis... De mon enfance aussi, de mon préadolescence, j'avais un peintre qui me passionnait, c'était Nicolas de Staël.
D'accord.
Voilà, et je suis resté toujours dans l'esprit un peu de Nicolas de Staël, qui est, pour moi, c'est une œuvre assez importante, celle de Nicolas de Staël, et je m'y suis rattaché tout sans faire ce qu'il fait exactement lui-même. Voilà. Donc oui, je suis plutôt sur une peinture semi-figurative.
Oui.
Voilà, mais qui...
On arrive quand même à distinguer les montagnes sur vos peintures.
Oui.
Sur celles que je vois en face de moi, on voit quand même les montagnes, même si elles n'ont pas les bonnes couleurs. On
vous
voit
avez
quand
jamais
même
vu
les
la montagne rouge, vous ?
Ben non, pas encore. Peut-être que ça existe hein, dans tout un monde qui est très divers.
Alors, si, si, mais alors c'est peut-être pas des rouges aussi violents que les
non,
miens.
Non, je pense pas.
Mais quelquefois à l'automne, le soleil couchant sur le Vercors,
oui.
Tout le massif du Vercors là avec le... Elle est rosissant, rougissant comme ça, là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai,
voilà.
C'est vrai qu'en automne, ça se part de couleurs rouge et orange.
Voilà.
Mais du coup, pendant toutes vos 50 ans de carrière qui ont été plus santé mentale et politique, vous avez continué à dessiner ?
Pas du tout.
Oh, pas
Je
ne
pouvais pas. C'était pas possible. C'était pas possible parce que j'étais... branché sur ce que je faisais.
Vous étiez dans votre truc.
Puis pour peindre, il faut avoir l'esprit libre. Il faut être décontracté. On ne peut pas peindre quand c'est pas contraignant, quoi.
Ouais.
Là, je suis pas professionnel non plus, j'ai pas besoin de ça pour vivre, donc quand je peins, c'est que j'en ai pas.
Là, c'est pur plaisir.
Voilà, c'est pur plaisir, voilà.
Donc, Maurice Berger, je vis et travaille à Saint-Martin-du-Riage. Donc, je présente aujourd'hui pour le Salon des Arts de Montbonneau mon travail réalisé à l'aide d'épingles, uniquement des épingles brasées. Brasées qui, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est soudé.
Oui. C'est un travail hyper minutieux.
Oui, c'est un travail qui est très minutieux. Donc, il demande d'abord la réflexion pour la pièce à réaliser. Ensuite, je produis une maquette pour choisir le bon dimensionnement. Et ensuite, je me lance dans mon travail. Donc, tout est basé sur l'organisation pour arriver à mes fins, pour que je ne sois pas, à un moment donné, bloqué dans le montage de mes pièces.
Pour vous rendre bien compte, pour vous qui nous écoutez, donc devant nous, on a des pièces qui sont très géométriques et qui sont faites uniquement d'épingles. Vous voyez les épingles qu'on met quand on coud pour tenir les ouvrages et qui sont soudées entre elles. Donc c'est assez impressionnant comme travail. Comment ça vous est venu de travailler avec des épingles ?
Mais tout d'abord, moi je suis fasciné par les accumulations. Donc les accumulations avec des objets anodins ou qui peuvent paraître anodins.
Ouais.
Donc je cherchais un matériau à accumuler, donc j'ai fait d'abord quelques installations avec des boutons, j'ai accumulé aussi des clés, des bouchons, des mouches, tout ça. Puis après, je me suis tourné uniquement vers l'épingle, parce que c'est un gros travail qui demande énormément de temps.
On imagine bien à le voir comme ça. Et vous faites ça depuis combien de temps ?
J'ai commencé ma première expo, je l'ai fait en 2004. Mais depuis que je suis jeune, j'ai toujours créé des pièces dans ma tête. Donc là, je présente des pièces qui sortent de ma mémoire d'enfant.
Qui sortent pour de vrai de votre tête. D'accord. Parce que du coup, depuis que vous êtes enfant, vous dessinez un peu ou c'est vraiment tout le temps resté dans votre tête ?
Non, j'ai toujours créé, mais c'est resté toujours dans ma tête.
D'accord.
Dans le disque dur et maintenant, les pièces ressortent.
En tout cas, c'est un travail qui est super impressionnant. Qui est super, c'est atypique. Là, pour le coup, on peut le dire quand même, que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir.
Oui, quand j'ai commencé à travailler, je cherchais justement quelque chose qui n'avait pas été fait pour marquer un petit peu mon empreinte.
Vous voyez, de loin, quand on est passé, je pensais que c'était des petits bouts de verre, des petits miroirs de loin. Mais ça rend le travail encore plus impressionnant, je trouve, quand on est proche.
Oui, alors moi je travaille aussi avec l'éclairage, c'est ce qui donne aussi la valeur de mes pièces. Je dirais que l'épingle qui est un objet d'acier, rigide, piquant, strict, j'arrive à donner légèreté à mes œuvres en les assemblant et en les éclairant.
Elles sont très poétiques vos œuvres, je trouve, malgré, c'est pas le bon mot, mais elles ont des formes très géométriques et pourtant je les trouve très très poétiques. Parce qu'on associe quand même plus souvent la poésie à la volupté, les formes un peu fluides.
Oui, mon travail est surtout basé par rapport à des formes géométriques que j'ai dans ma tête ou que je crée en fonction de mes idées, de mes envies.
Alors j'ai une question à vous poser, je suis un peu curieux de savoir combien il y a d'épingles environ dans les sculptures que vous faites ?
Alors c'est assez difficile à dire, c'est plusieurs milliers d'épingles, donc c'est vrai que lorsque je présente mon travail auprès d'associations, d'écoles, j'ai une pièce pédagogique où je connais le nombre d'épingles, le poids, la taille, le poids de la soudure et le nombre d'heures passées surtout, parce que c'est une question qui est quand même régulièrement posée, quoi. Mais sinon, après, non, je me contente de montrer ce travail. C'est mon travail que je nomme cristallin.
Alors, bonjour, moi je m'appelle Marie-Laure Tesser. J'habite à Edoche, donc dans le nord Isère, à côté de la côte Saint-André. Et mon domaine, c'est la sculpture. même si j'aime beaucoup finalement associer les techniques, puisque je fais aussi de la calligraphie, je me suis essayée aussi à la photo, et j'aime un petit peu mélanger les genres, les styles, les techniques, pour faire des choses un peu, à la limite des frontières entre chacune de ces techniques. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de l'écriture et des traces de vie.
Oui, ça m'inspire beaucoup de poésie, ouais. Ce que vous faites.
Ah, merci. Effectivement, j'aime tout ce qui est poétique, léger, sobre, élégant. Alors peut-être que ça se traduit aussi dans mes pièces. Alors je ne fais pas des très grosses pièces parce que j'aime être dans la précision, dans le... Voilà, très, très fin. Et je fais aussi du dessin, voilà, dans l'illustration, de mêler des techniques et faire un petit peu des pièces hybrides. Je fais aussi du dessin sur des pièces de bois où je suis les traces de vie de l'arbre, soit les cernes, soit les taches qu'il a développées dans son tronc, en faisant des dessins un peu organiques, mais que je vais suspendre pour faire des cadres qui peuvent aussi se poser. Donc voilà,
c'est très multitechnique ce que vous faites.
Voilà, j'aime bien brouiller les frontières et explorer.
Est-ce que vous faites ça depuis longtemps ?
Alors la sculpture, j'en fais depuis pas loin de 25 ans. J'ai longtemps fait en amateur, mais depuis 2 ans seulement, je suis installée en artiste-auteur.
Oui.
Et j'ai pour ambition de vouloir développer et peut-être même d'en vivre. Mais actuellement, j'ai un autre métier
à côté.
N'a rien à voir. Là aussi, c'est très hybride parce que je suis scientifique à la base.
Comme beaucoup, beaucoup d'artistes, j'ai l'impression.
Ah oui ?
Sur
ce salon ?
Non, mais... J'ai l'impression que moi, personnellement, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui font finalement quelque chose d'artistique et qui ont des études beaucoup plus scientifiques.
Oui, c'est certainement pour contrebalancer un équilibre, en tous les cas, rechercher un équilibre qu'il faut qu'on ait de plus en plus, je pense. Alors, moi, c'est vrai qu'à la sortie du bac, j'aurais voulu faire l'école Boulle, donc vraiment dans la création.
À Paris.
Et je me suis sentie trop jeune, en tous les cas, pas prête à partir pour Paris. À cette époque, alors j'étais bonne en sciences, du coup j'ai fait pharmacie. Et durant mes études de pharmacie, j'ai découvert l'écotoxicologie. Et c'est ce que j'enseigne en fait à des étudiants de l'université de Montpellier.
D'accord.
L'écotoxicologie, donc là, le risque chimique et la détermination des effets des produits chimiques sur l'environnement.
D'accord. Donc vous restez quand même dans une... thématique entre guillemets très nature,
oui,
très
oui,
autour de la nature.
Et justement, j'ai une pièce qui illustre cette croisée des chemins artistiques et scientifiques et préservation de la nature, où j'ai repris le tracé d'un scolyte. Donc le scolyte, c'est un insecte qui en ce moment ravage nombre de forêts en France et notamment en Chartreuse. Le scolyte typographe et qui... Alors ça met en tous les cas en lumière un problème très actuel du fait du réchauffement climatique, puisque ces scolytes, ces petits insectes prolifèrent et déciment toutes les forêts. Mais il n'empêche que les traces qu'ils laissent sur le bois, elles sont magnifiques. En mettant en lumière cette graphie-là, parce qu'en plus, ce scolyte s'appelle le scolyte typographe ou le scolyte sténographe, donc complètement en lien avec ma thématique de l'écriture et du graphisme et de la graphie globalement. Donc oui, ça me donne l'occasion aussi de parler de la préservation de l'environnement, quelque part.
Oui, mais en fait, vous avez quand même une continuité entre votre métier et votre art. Au final.
Oui, je me rends compte effectivement, parce que là j'ai fait des dessins sur des mémoires techniques de géologie de 1966 et 57 que j'ai récupérées chez un fameux bouquiniste à Lyon, qui les donnait parce qu'il n'arrivait pas à les vendre. Donc ils étaient laissés là sur le trottoir, je les ai récupérés en me disant non, ça ne peut pas partir à la benne. Et en fait, ces mémoires n'étaient même pas découpées, si bien que les feuilles,
okay.
J'avais encore 8 feuilles et donc des grands volumes pour faire des grandes surfaces pour faire mes dessins, et j'ai fait des dessins là aussi d'organismes marins un peu à la manière de Ernst Haeckel quand il faisait ses planches anatomiques d'organismes marins globalement. Donc, et là aussi je me suis dit tiens, ça c'est aussi à la croisée de mes deux aspirations, oui. scientifiques et
artistiques.
Voilà. Donc oui, je me retrouve, autant mes œuvres sont un peu hybrides, c'est aussi un peu moi, je suis un peu un être hybride.
Vous feriez un bon sujet de philo entre peut-être. L'artistique et le scientifique.
Peut-être, j'essaie déjà de me comprendre moi-même et de, et ben, au travers de toutes ces explorations-là, de voir comment, en tous les cas, j'ai commencé à prendre le temps de fabriquer, de construire mon équilibre entre la science et l'art, et à mettre en lumière tout ça. Et c'est un champ d'exploration vaste.
Et du coup, vous êtes totalement satisfaite de ce que vous faites actuellement ?
Oui. Alors même si je suis encore en train d'explorer, parce que et puis d'essayer, hein, puisque si je veux pouvoir vivre du milieu artistique de mon art. C'est pas évident,
c'est
le contexte non plus aussi actuel et économique n'est pas favorable à ça, mais en tous les cas, j'explore et je m'y essaye et c'est toujours très riche de rencontrer aujourd'hui.
Et on est très contente de vous rencontrer d'ailleurs.
Merci.
Moi, je trouve que votre art il vous définit bien.
Oui.
Par rapport à. Alors, évidemment, pour nos éditeurs et auditrices. Sauf s'ils viennent au salon, ils ne vous verront
et oui,
pas.
Ben justement, ça vous donne aussi l'occasion de vous inviter, chers oui. auditeurs et auditrices, à venir au salon à Montbonneau-Saint-Martin, à la Maison des Arts. Donc il y a de très très belles pièces, sculptures, peintures, photos.
Il y a de tout.
Oui, et la qualité, enfin c'est très qualitatif. Donc si vous souhaitez venir voir et faire commencer vos petites emplettes de Noël, c'est le moment.
Oui. Et c'est jusqu'à dimanche.
Jusqu'à dimanche soir, effectivement, 18h.
Je m'appelle Jean-Michel Ortolan. J'habite dans les environs de Grenoble, à Saint-Paul-de-Vars, côté sud. Et voilà, je suis présent à ce salon pour présenter quelques acryliques sur toile et quelques dessins.
Grandes acryliques sur toile.
Oui,
assez grandes.
C'est des formats assez grands, voilà, qui approchent le mètre.
Ouais. Et. Entre vos dessins et vos acryliques, il y a tout un monde. C'est pas du tout la même, même chose.
Ouais, c'est pas du tout la même façon de travailler. Il y a des choses qui sont plus jetées, les acryliques, avec pas mal de coulures et grosses couleurs. Et puis les dessins qui sont beaucoup plus minutieux, ils sont plus un truc de patience. Et puis il y a un lien quand même entre les deux.
Il y a une touche de couleur dans vos dessins.
C'est le vélo, le vélo. Voilà, le vélo.
C'est vrai qu'il y a des vélos
le
partout.
Entre les deux, c'est le vélo, tout à fait.
Et donc pourquoi le vélo ? La ligne conductrice du vélo ?
Bon, parce que c'est plutôt sympa à dessiner, parce que c'est un peu graphique. Et puis je fais du vélo aussi. Et puis il y a un petit thème écolo derrière le vélo qui est plutôt sympa.
Effectivement. Et moi, j'ai une question par rapport à vos dessins. Vous les faites à partir de photos ou vous dessinez vraiment tout le corps
ouais,
vous-même
c'est une bonne question. Non, je fais tout à partir de photos. Je suis incapable de faire ça à partir de ce qui est dans ma tête. Donc, il me faut une photo, un modèle, mais il faut que je parte de quelque chose. Ouais.
Non, parce que pour bien vous rendre compte pour nos auditeurs et nos auditrices, Donc, ce que monsieur dessine, c'est vraiment, on dirait carrément des corps qui sont tatoués. Et c'est vrai que moi, je me posais la question, est-ce que c'est à partir de photos ?
Ouais, tout à fait. En fait, les corps tatoués, c'est parti au départ d'un bouquin qu'on m'a offert d'un photographe japonais qui a fait des photos dans les années 80. Donc, dans les années 80, le tatouage, il n'y avait pas cet engouement qu'il y a actuellement. Oui. Et donc, vraisemblablement, les photos des personnes qui sont tatouées complètement, le corps complètement tatoué, c'est vraisemblablement des yakuza ou des prostituées. Oui. Quoi.
Oui.
Parce que c'était le cas à l'époque.
C'est d'ailleurs toujours un peu mal vu les tatouages.
Ouais, au Japon. Enfin, ouais,
pas un peu, c'est mal vu.
Ouais, ouais, complètement. Et en tout cas, là, c'était vraiment le cas. Et donc, je suis parti de là. Et donc, c'est des photos de corps nus. On ne voit pas les visages. Et en fait, je les ai reproduits en quelque sorte sur du dessin en noir et blanc. Quoi.
Et ça fait longtemps que vous faites ça, que vous dessinez, que vous peignez ?
Depuis tout petit déjà. Et en fait, je n'ai pas arrêté, parce qu'en fait, tout le monde dessine quand on est tout petit.
Oui.
Et ben voilà, moi j'ai continué. Et puis je suis allé pas mal dans les locaux des beaux-arts en cours adulte.
Ok.
Et puis voilà, et puis depuis 2015, j'ai arrêté, mais je continue à peindre dans mon garage et à dessiner chez moi.
C'est pas votre activité principale ?
Non, c'est pas mon activité principale.
Mais c'est votre activité de passion.
Exactement. Et comme je suis au 4/5e désormais, bah, je peux dire que c'est mon activité principale à 1/5e de mon temps. Ouais.
Pas mal, pas mal. Et vous avez des palettes de couleurs qui sont très différentes entre les toiles. Enfin, là, pour vous dire, à ma droite, j'ai des teintes plutôt jaunes et vertes. Et à ma gauche, j'ai plutôt des teintes rosées et bleues. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est selon vos émotions, une ambiance ?
Je ne sais pas dire. C'est peut-être.
Et comment vous le sentez sur le moment ?
Voilà, c'est sur le moment, probablement. Plus ça va, plus les couleurs sont vives.
Ok.
Parce qu'au début, j'avais probablement un peu de difficulté avec les couleurs, mais voilà. Après, ça dépend des moments, puisque celle qui est très pastel, elle est très récente.
J'aime beaucoup celle que vous venez de montrer.
Merci. Donc voilà, ça dépend probablement de l'humeur. Ouais.
D'accord. Et vous êtes satisfait de ce que vous faites actuellement, de manière artistique ?
Ben, ça dépend. C'est l'ascenseur émotionnel traditionnel, je pense. Oui. C'est des moments où on est super content.
Je repose la question quand même. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont peut-être... Ça dépend des moments, mais je pose la question
En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à des moments, on est très content. Enfin, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, hein, mais j'imagine que c'est un peu le cas pour tout le monde. Il y a des moments où on est très content. Puis il y a des moments où on est moins content et donc voilà, on boude, on est pénible avec sa famille et tout. Voilà. Ça ne doit pas être toujours facile pour
nous. Des moments où il n'y a rien qui marche et où on est très désagréable avec tout le monde.
Exactement, voilà. C'est comme pour
tout. C'est vrai que c'est pareil partout. Hein.
Voilà, je crois que c'est dans la vie, c'est comme ça.
Vous écoutez toujours Radio Campus sur la 90.8 et on arrive avec sans doute notre dernière interview de cette petite émission. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et nous dire ce que vous faites ?
Donc je suis Éric Fiard, je suis photographe. Aujourd'hui, l'exposition qui est devant vous est un ensemble de photos de voyage. Voilà, puisque c'est ma particularité, en tout cas sur ce salon, c'est de présenter des images de voyage.
Donc ça inclut que vous avez beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a un pays en particulier qui vous a marqué ou vous avez vraiment aimé prendre des photos ?
Alors,
question difficile.
Question difficile, effectivement, parce que tous les pays ont leurs particularités. Donc, tous les pays m'ont marqué d'une certaine façon. On a toujours tendance, peut-être des fois, à se rappeler le dernier voyage qui était au Maroc. Par ses couleurs, par les différents des paysages très très différents qu'on peut voir dans ce pays. Mais je resterai quand même l'un des pays qui m'a le plus marqué, qui aujourd'hui malheureusement on ne peut plus y aller. C'est donc la Birmanie, hein, ex-Birmanie, qui s'appelle maintenant Myanmar.
Oui.
Puisqu'il y a des paysages très différents. C'est un pays où à la fois vous pouvez aller voir les animaux, mais à la fois vous avez du désert, vous avez la mer. Donc un grand pays avec beaucoup de choses à voir.
D'accord, très bien. Et vous faites surtout du paysage ou vous faites aussi un peu de portrait ? Enfin, est-ce que vous avez une prédilection pour le paysage ?
Alors, c'est vrai que la majorité de mes photos, c'est du paysage, effectivement. Mais j'ai quand même mis une photo de portrait sur ce salon pour montrer que je faisais autre chose. Effectivement, ça sera le but d'une prochaine exposition avec beaucoup plus de portraits, des animaux aussi, puisque j'ai fait les pays d'Afrique qui m'ont permis de faire des photos d'animaux. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une tendance paysage, mais je fais d'autres choses. Voilà, avec effectivement des gens dans la rue de différents pays. J'ai par exemple des musiciens à Cuba, j'ai ce moine bouddhiste à Mandalay. Voilà, j'ai des choses assez différentes.
Mais d'ailleurs, j'ai parlé de paysage, mais en fait, en face de moi, il y a des photos qui ne sont pas exactement des paysages. Par exemple, vous avez vraiment une photo avec une seule fenêtre. Donc vous aimez bien aussi faire un espèce de zoom sur un élément en particulier du décor, je suppose.
Alors oui, tout à fait. Je trouve que dans les pays, vous avez une magnifique paysage, mais si on s'arrête un petit peu, il faut se poser, regarder un peu, et là, vous pouvez être attiré par un détail. Mais à la fois, même si cette fenêtre est seule, elle a déjà la couleur du mur qui est très particulier, puisque c'est une photo qui a été prise dans la ville jaune, qui est à Izamal au Mexique. Mais vous avez le cactus du Mexique, vous avez les couleurs mexicaines, les azuleros mexicaines, le nom de la rue, et tout ça, ça donne une ambiance, même si c'est une photo très ressentie sur un détail.
Oui, mais ça fait ressortir la beauté des petits détails, je trouve.
Tout à fait, parce qu'on a des fois tendance à regarder juste le paysage dans son ensemble, alors que si on regarde une autre photo, vous avez des rochers dans l'eau. C'est un simple détail de la mer, mais est-ce que beaucoup de gens se sont arrêtés pour le regarder
pour le
prendre le
détail.
Temps, ouais, avec cette petite ondulation de l'eau. Voilà, il faut s'arrêter, regarder les détails. Ça peut être très évocateur.
Et vous nous disiez tout à l'heure que vous retouchiez absolument pas vos photos. Là, vos photos, c'est des photos brutes comme vous les avez prises.
Tout à fait, photos brutes. Il y a peut-être juste la photo qui est faite en Namibie du désert, où j'ai saturé légèrement les couleurs, mais vraiment une toute
c'est
petite
très,
pointe.
Très léger.
C'est très léger, voilà, parce que je veux que ça reste réaliste, mais toutes les autres photos sont absolument pas retouchées. C'est tout à la prise de vue.
Donc c'est vraiment une espèce de rester dans la vraie vie et ne pas trop retoucher, parce que c'est vrai que... Alors, je ne dénigre pas du tout les autres photographes, je fais un petit disclaimer. Mais c'est vrai qu'actuellement, nous par exemple, enfin moi qui fais une école de design, on nous apprend à retoucher beaucoup ce qu'on fait. Et c'est vrai que j'ai pas forcément entendu beaucoup de photographes dire qu'ils laissaient leurs photos brutes. C'est pour ça que je vous pose aussi la question.
Je pense que la retouche de photos, ça peut être une autre forme d'art, c'est différent. Moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est que finalement, on vit dans un monde qui est très beau, qui est merveilleux. Et il faut juste prendre le temps de le regarder pour le respecter. Voilà, c'est plus mon discours.
Et moi, j'aime beaucoup cette petite conclusion de notre petite interview. Merci beaucoup. Et on en termine avec les capsules de l'exposition d'art contemporain. Pour rappel, l'exposition a lieu du 21, donc d'aujourd'hui au 23 novembre. Et elle se déroule à la Maison des Arts de Montbonneau, de 10h à 18h. On va terminer cette émission en écoutant une autre capsule à propos du mois de la photo, et plus précisément de l'exposition photo à la librairie Les Modernes. Pour passer en douceur entre ces deux capsules, je vous propose d'écouter du jazz avec un morceau du dernier album de Grégory Salé, Otsukaresama, j'espère que je le prononce correctement, sorti le 7 novembre. Par ailleurs, si vous aimez le jazz, vous pouvez retrouver Grégory Salé ce soir à 20h au Théâtre Sainte-Marie d'en bas. Bonne fin d'émission.
À l'occasion des rencontres de la photo, qui se tiennent à Grenoble pendant tout le mois de novembre, je suis allée rencontrer le photographe Mab Eidem, qui présente son exposition et son livre photo « Goody Dakar »,« Dakar la nuit », à la librairie des Modernes jusqu'au 29 novembre. Rencontre avec le photographe Mab Eidem. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire comment est née cette série de photos et quand est-ce qu'elle est née, comment est-ce que vous est venue cette idée-là ?
Alors c'est dur de parler de la naissance exacte. Je crois qu'au départ, à chaque fois, il y a profondément une insatisfaction du monde. Et il y a ce besoin un peu de se raccorder au monde et puis d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver des choses, des questionnements aussi, beaucoup, sans forcément avoir de réponse. C'est pas quantitatif, quoi. Mais elle est née, je dirais, en tout cas les premières photos, celles que je présente dans le livre, les plus anciennes, elles datent de 2015. Avant ça, j'avais déjà commencé à travailler sur la nuit à Dakar, avec les boutiques encore ouvertes. Mais disons que c'est en 2015 où ça a vraiment, j'ai pris beaucoup de temps et je savais que ça serait un travail sur plusieurs années. Et je me suis projeté, je savais que c'était 5 ans minimum et finalement la série s'est terminée en 2022.
Donc vous saviez depuis le début que ça allait être un travail sur le long cours ?
Oui, parce que je m'engage tout le temps en fait, sur de longues périodes pour les différents travaux que j'ai faits. C'est plutôt rare que je fasse un travail assez rapide, mais en règle générale, je sais faire ça. Je sais me projeter et c'est ce qui m'intéresse puisque moi, la photo, je la fais beaucoup pour rencontrer les gens. Donc les travails qui dureraient qu'une semaine, deux semaines, ça ne serait pas très intéressant pour moi parce que il y aurait un côté superficiel des rencontres. Alors que là, c'est beaucoup de gens que je vais voir, où on discute avant que je prenne la photo, que je vais revoir, qui parfois mettent du temps avant de m'autoriser à prendre en photo. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs, et je mets un peu de temps.
Et qu'est-ce qui fait justement dans vos déambulations au long cours, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous savez que c'est le moment où il faut sortir l'appareil et appuyer sur la gâchette, entre guillemets ?
Mais au Sénégal, donc les photos se... Pardon, je tousse un peu. c'est l'automne. Donc, en fait, au Sénégal, j'ai mon appareil photo constamment sur moi. Et donc, quand je l'ai constamment sur moi, tout est en éveil. Donc, en marchant, je vois plein de choses. Et je m'arrête dès que je vois que... Il y a quelque chose qui m'intéresse profondément, enfin, en tout cas qui m'aspire, qui me happe. Et donc j'y vais, et puisque c'est des boutiques, beaucoup de boutiques que je photographie, je vais voir les propriétaires ou les tenanciers ou les vendeurs qui sont là à ce moment-là pour leur expliquer un peu ma démarche, pour leur montrer des photos déjà que j'ai prises, pour discuter. Parfois, certains, c'est pas le jour, donc ils me disent repasse. Parfois, d'autres, ils me disent pas de problème. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a constamment des échanges. On discute aussi sur des précarités, des commerces ouverts la nuit, comme ça, en banlieue dakaroise, comment elles tiennent. Il y a aussi d'autres questions qui se posent, c'est que les rues, je travaille beaucoup dans les rues où il n'y a pas d'éclairage public. Du coup, c'est des rues qui sont très sombres et l'éclairage de la rue se fait par ces boutiques encore ouvertes, très tard. Il y a aussi certains endroits qui sont des lieux sociaux où les gens viennent se réunir, je pense aux coiffeurs un peu. Au Sénégal, les coiffeurs, c'est aussi des lieux où on vient regarder le foot parce qu'il y a, un écran à cet endroit-là, il y a des discussions, il y a des gens qui se font évidemment coiffer parce qu'il faut que ça tourne quand même. Mais il y a plein de lieux comme ça. Je pense aussi aux couturiers où c'est un métier qui est encore très présent au Sénégal où les gens viennent se faire des tenues sur mesure. Qui coûte pas forcément cher, mais comme un peu partout, Dakar est une ville qui bouge beaucoup, donc qui se fait aussi rattraper par, par malheureusement ce côté un peu capitaliste où il y a plein d'habits qui viennent aussi d'autres endroits et qui sont consommés différemment. Donc, et qui coûte moins cher finalement, qui coûte encore moins cher que les couturiers. Donc il y a ça qui bouge, c'est des villes en mouvement,
Est-ce que c'est justement toutes ces histoires et toute cette narration qu'il y a autour, enfin toutes les rencontres que vous avez faites autour, qui a nécessité qu'en plus de l'aspect exposition, il y ait aussi un livre avec de l'écriture à l'intérieur ?
Oui, bien sûr. Moi, le livre, c'est, je pars des livres. Moi, j'ai appris la photographie par les livres. J'ai appris la peinture par les livres en bibliothèque. J'ai été très jeune. J'ai eu la chance d'aller dans les bibliothèques et de sentir que c'est un lieu pour moi où je peux me sentir à l'aise, où je peux y faire plein de choses. Je peux feuilleter des livres. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans les livres de peinture, de photographie, c'est qu'on pouvait ouvrir, qu'on peut toujours d'ailleurs, peut ouvrir au milieu, voir une photo, une image, deux images, on peut refermer, passer à l'autre. Il y a un côté comme ça où au collège on n'était pas obligé de commencer un livre de la première et finir forcément la dernière page. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et à force d'aller en bibliothèque et d'être au contact de ces livres-là, ben, je commence à apprendre la composition. Pourquoi tel auteur comprend un peu mieux son point de vue? Pourquoi elle a décadré à ce moment-là? Pourquoi tel personnage qui apparaît est un peu bord cadre? Enfin, tout ça, c'est fait avec le temps. Et donc, le livre, pour moi, est forcément essentiel dans mon parcours et dans la restitution de la fin. C'est-à-dire que quand je travaille sur une série, je sais qu'à la fin, je veux que ce soit un livre. Je travaille dans cette optique-là. Après, il y a des expositions qui se font, mais
c'est presque un deuxième temps, quoi.
C'est quasiment un deuxième temps. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, tout à fait, tout à fait. Et justement, vous parlez de l'importance du cadre et du décadrage et tout ça dans cette série. Il y a beaucoup justement de deuxième cadre avec l'encadrement des boutiques, justement des fenêtres, des portes qui sont entrebâillées, complètement ouvertes, des voilages aussi, des rideaux, des choses comme ça. Et j'ai aperçu dans votre livre l'évocation d'un petit théâtre. Qu'est-ce que vous diriez de cette expression-là ?
Oui, c'est je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus dans l'image. C'est qu'on voit pas tout, qu'on puisse imaginer, qu'il n'y ait pas toutes sortes de réponses, que notre regard ne soit pas dirigé, qu'il y ait des zones où ben, on ne voit pas, on accepte. Comme la nuit dakaroise, j'ai juste observé quoi, ce qui se passait.
Parce qu'en même temps, petit théâtre, ça donne l'idée qu'il y a un peu de mise en scène aussi. Est-ce que vous mettez en scène volontairement ou involontairement par votre regard ou par des indications que vous donnez à vos sujets?
Alors pour moi, toute photo est mise en scène. C'est-à-dire que dès lors qu'on décide du cadrage, d'où on prend la photo, comment on la prend, en plongée, en contre-plongée, est-ce qu'on est proche des personnes, est-ce qu'on utilise tel objectif, tel ceci. Donc la question de mettre en scène, chez moi, elle est quasi naturelle. Après... Après, je demande pas aux gens de se mettre à telle position, mais je prépare quand même beaucoup mon cadrage. C'est un ami qui a écrit un texte qui s'appelle Alain Gomis, qui est un cinéaste, qui a parlé de petit théâtre. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un ami de longue date et quand il parle de petit théâtre, je trouve ça intéressant parce que quelque part c'est aussi ça, c'est aussi je veux à la fois qu'on voit pas forcément tout, mais je veux aussi montrer, je veux voiler mais dévoiler aussi. Et côté petit théâtre, c'est que les gens aussi vivent à l'intérieur, c'est des scènes de vie qui m'intéressent. C'est voir comment les gens comment je suis avec eux, dans quelle position, est-ce que j'ai osé m'approcher, est-ce que je suis un peu loin, comment ils sont. Ce qui m'intéresse, je crois, c'est de retrouver chez les autres des choses que moi je suis très banal quoi. Je cherche je cherche pas à trouver quelque chose d'exceptionnel ou quoi que ce soit. C'est ce qui m'intéresse, c'est les gestes très banals du quotidien. Et finalement, c'est quand même dur de les trouver quand on les cherche. Mais voilà, moi je suis intéressé par cette chose-là. Donc mis en scène, oui, bien sûr. Mais sans faire bouger les gens. Mais en même temps. Par exemple, quand je demande l'autorisation et qu'on me dit oui, tu peux photographier, je sais que les personnes m'observent. Et du coup, il y a un jeu où j'attends, je reste longtemps l'œil dans le viseur. Puis au bout d'un moment, ils se disent bon, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Et donc, ils reprennent leur activité. Et ça, j'en suis très conscient. Il y a plein de choses comme ça, quoi.
Et est-ce que dans cette démarche, vous avez des inspirations, des maîtres à penser ou des modèles un peu chez des photographes ou d'autres ?
Ben, y a une photographe que j'aime par-dessus tout, c'est Sabine Weiss. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'aurais cité d'autres photographes qui étaient beaucoup plus peut-être... sur la composition, sur des effets. Or que elle est beaucoup plus sur la posture, le point de vue, comment on construit une relation avec les gens quand on les photographie. Parce que ça induit beaucoup de choses de prendre les gens en photo. Je me pose beaucoup de questions de l'outil que j'utilise, comment je l'utilise, pourquoi je l'utilise, à quel moment je l'utilise, pourquoi tel moment, telle photo, pourquoi plutôt tel type de personne, pourquoi je suis plus, disons, je photographie par exemple en banlieue dakaroise beaucoup. C'est des choix, des points de vue, des choses qui m'attirent, mais il faut que ça ait beaucoup de sens. Et pour en revenir à Sabine Weiss, c'est-à-dire que la manière dont elle photographie les enfants, elle se met à leur niveau. Dont elle photographie les femmes, surtout à une période où il y avait la photographie a aussi servi à des modes de domination, c'est-à-dire sur le corps de la femme, sur les minorités, où il y avait beaucoup de plongées c'était très marqué. Et Sabine Weiss, elle est dans une relation très je ne sais pas si c'est égalitaire le mot, c'est horizontal, plus vrai. Elle vient comme elle est, elle photographie les gens tels qu'ils sont. Je veux dire, je ne sens pas d'effet, je sens quelque chose de très humaniste. Et je suis de plus en plus touché par son travail, que j'ai l'impression de comprendre de plus en plus. Et ça m'interroge, et elle m'interroge, et elle me pousse dans mes retranchements aussi, parce que... On est humain et on rate plein de choses aussi dans la relation, dans la manière de photographier. Mais voilà, je peux citer Sabine Weiss, je peux citer plein d'autres photographes qui m'inspirent, mais je crois que Sabine Weiss, j'aime beaucoup.
On va finir sur Sabine Weiss, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et bravo pour cette série qui est à voir à la librairie des modernes pendant tout le mois de la photo, et bravo encore.
Merci.
Chaque soir pendant plusieurs mois, de 2015 à 2022, je suis partie marcher dans Dakar avec Kader Ngong qui m'assiste dans mon travail. Je cherchais des clairs-obscurs, en décalage avec les scènes surexposées de la ville, les clichés de couleurs vives des communications touristiques. La noirceur, au sens esthétique et politique, a pour pendant des scènes très médiatisées de couleurs vives de Dakar le jour. Je cherchais à faire avec l'obscurité, atténuer et rendre présentes les couleurs, par la lumière à la fois étouffée et contrastante de la nuit. Nous commencions à marcher à la tombée de la nuit, encore éclairée par les devantures de boutiques, allant fermées ou restant ouvertes tard. Goudi Dakar, nuit à Dakar, en Wolof.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie ! Quoi ?
Sur Campus Grenoble. Sur quoi? Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.